BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. On va parler du retour au travail. Est-ce que c'est encore possible de faire du cas par cas? Et bien clairement, la réponse est non pour la DRH de la Société Générale, Caroline Guillaumin, qui sera avec nous dans quelques instants. On va parler ensuite du management rotatif. C'est l'art de driver des gens qui ne font absolument pas la même chose en même temps. Ça ressemble à un casse-tête et c'est pas loin d'être complètement ça. On va en parler avec Vincent Balouet, dirigeant chez Maîtrise des Crises. Et puis les mots agiles, les mots défis, les mots éducation, on les emploie à toutes les sauces. Est-ce qu'on a vraiment raison? Rien n'est moins sûr. On en parlera avec Anne Rosnoblet. Elle est traductrice et spécialiste de la langue française. Happy Boulot Le Mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutive de la semaine, c'est Caroline Guillaumin. Bonjour, DRH et DIRCOM de la Société Générale. On va parler ensemble des jeunes, mais 133 000 collaborateurs de la Société Générale. Combien sont retournés au bureau depuis qu'ils en ont le droit ?
Alors, bonjour à tous.
Bonjour Caroline.
Bonjour Laure. Alors, effectivement, on est dans cette belle période de retour sur site. Alors, écoutez, nous, ce qu'on a fait, c'est que, par exemple, en France, où on est à peu près... 40 000, mais une grande partie était déjà sur site, je le rappelle, puisque beaucoup n'étaient pas forcément en télétravail hein, dans les agences. Ceux qui étaient en télétravail, on va dire forcé, en fait reviennent entre 1 et 2 jours. Maintenant, c'est 2 jours obligatoires en fait sur site, et on va passer entre 2 et 3 jours obligatoires. Donc, on a une grande partie, en fait, l'ensemble des collaborateurs reviennent, mais ils reviennent une partie en raison des jauges à évidemment conserver en raison des protocoles
sanitaires. Donc, au moins 2 jours par semaine.
Au moins 2 jours par semaine. Obligatoire pour tout le monde et encore et plus si vous êtes dans des fonctions où vous n'avez pas en fait de travail à distance.
C'est fixé équipe par équipe les 2 jours ou ça?
Alors oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande un lissage sur la semaine, c'est-à-dire on fait en sorte d'abord on a des cantines, on a des voilà,
Vous avez besoin de savoir combien
sont là. On doit savoir, donc on a une petite app en fait qui permet aux gens de s'enregistrer. Et finalement, par équipe, de veiller à ce que sur un étage, par exemple, vous ayez exactement le bon nombre de personnes qui viennent chaque jour. Par contre, il n'y a pas d'exception, en fait. Les gens doivent revenir, à part évidemment exception.
Il y a une
exception.
Application spécifique, oui. Où on s'enregistre, on dit, oui. Je serai là tel jour. Il y a quelqu'un qui vérifie que vous êtes bienvenu 2 jours.
Votre équipe, votre manager, ouais. En fait, doit... Alors, il va pas, on fait pas de flicage
de. Il tient pas un tableau
non. Non, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand ils s'enregistrent, s'ils arrivent à un niveau trop élevé par jour... Bah, il peut pas s'enregistrer en fait. Donc, si vous voulez revenir le lundi et qu'il y a déjà trop de monde le lundi sur l'étage, vous pourrez pas venir le lundi. Vous allez passer au mardi ou au mercredi. Vous allez vous débrouiller. Donc, en fait, chaque manager s'est organisé en disant à tout le monde faites un lissage pour que les cantines ne soient pas débordées, parce que sinon vous faites la queue pour la cantine, c'est pas très agréable. Et puis surtout pour qu'on respecte les protocoles, parce que moi j'ai un poste sur 2 qui n'est pas occupé, évidemment, qui est laissé libre par l'immobilier. Donc tout ça, mais tout ça se passe très très bien. Et je dois dire, par rapport à tous les articles que j'avais vus, les gens sont très contents de revenir, en fait.
Vous n'avez pas eu ces déménagements de gens qui ne veulent pas revenir?
Comme tout le monde, bien sûr, on en a. Alors on a 2 catégories. On a des gens qui sont partis assez loin pendant la crise, et donc qui effectivement nous disent est-ce que vraiment je dois revenir? Donc la réponse est oui, parce qu'il n'y a pas de raison que j'ai un traitement différent des uns et des autres. Donc là, ils reviennent. Voilà, c'est à un moment donné pour revenir. Et puis, en des cas, on n'en a pas beaucoup, mais on en a, et on commence à en voir arriver. C'est des cas de gens qui ont vraiment déménagé, en fait, en province.
Donc là, les enfants ont changé d'école.
Ah oui, là, on en a quelques-uns. Ouais. Et quand je parle à mes collègues DRH, on commence à voir poindre la situation. Voilà, 2 situations. Vous êtes en province, mais vous pouvez ensuite venir au jour que votre manager vous demande de venir.
2 jours comme les autres.
2 jours comme les autres, et plus parce qu'en septembre-octobre, on va mettre en place le télétravail avec notre accord de télétravail qui a été signé début janvier. Et là, c'est 2 jours, effectivement, de télétravail. Là, c'est 2 jours de présence sur site.
Donc on passera à 3 jours de sur site.
Exactement. Et donc là, où que vous soyez, moi, c'est pas mon problème. Si vous êtes en province, à partir du moment où vous êtes là, c'est pas mon problème.
Mais vous n'avez pas dit à ceux qui ont déménagé, bon, écoutez, tant pis, pour vous, 100% télétravail, viendrez un jour par mois?
Non.
Même règle?
Non, il n'y a aucune raison de faire ça. Après, c'est notre, j'ai envie de dire, c'est notre politique RH. Notre politique, elle est de dire, j'ai besoin d'avoir des collaborateurs qui ont un lien social et qui ont un lien avec l'entreprise. Je ne fais pas partie des entreprises dans lesquelles on peut être à 100% en télétravail. Il y a des boîtes qui ont choisi ça et je respecte tout à fait. C'est pas du tout notre stratégie.
Ouais.
Donc, si vous partez en province, encore une fois, soit vous vous dites, et vous vous arrangez, c'est votre vie. Je vais pouvoir revenir,
les et deux jours. Et vous débrouillez pour jours. Financer vos trajets dans ces cas-là? Enfin, c'est pas la Société Générale qui prend en compte les billets de train.
Alors, en fait, il y a une réglementation quand même là-dessus. Hein. Donc, l'entreprise doit participer à hauteur d'un certain pourcentage du trajet. Alors, c'est pas la totalité hein, du tout. Donc, il y aura de toute manière une grande partie qui est à la charge du salarié. Et néanmoins, ensuite, il y a des règles.
Comme le pass Navigo qu'on
voilà,
peut à Paris.
Voilà, c'est ça. Vous avez une partie qui est prise en charge. Mais le reste, en fait, c'est vraiment un choix personnel que moi, je respecte totalement parce que. Et après, avec toujours. Et là, c'est mon côté un peu. Quand on fait beaucoup de gestion de crise, on sait que quand on prend des décisions en pleine crise, en fait, c'est assez particulier de prendre ce genre de décision. Alors, vous avez des gens qui y pensaient depuis des années, qui ont fait ce choix-là, et ça, je le comprends parce qu'il y a le déclic. Ouais. Mais quand vous le prenez juste sur le coup de la crise, c'est plus délicat. Et en tout cas, nous, Société Générale, comme beaucoup de groupes en fait, avec lesquels je discute, pour moi, c'est un choix de vie qui ne doit pas s'imposer sur l'entreprise. L'entreprise, elle a besoin d'avoir des collaborateurs qui sont là à certains moments pour du brainstorming, pour travailler en équipe, pour manager leurs équipes. Et donc ça, maintenant, ça veut dire que c'est le collaborateur qui doit s'adapter.
Et vous leur dites, vous devez être au siège si c'est le siège. Par exemple, si vous avez déménagé à Nantes, vous ne pouvez pas aller sur le centre de Nantes.
Non.
Il faut revenir là où est votre équipe.
Mais vos équipes ne sont pas à Nantes, vos équipes elles sont à Paris. Votre manager, il est à Paris. Votre vie professionnelle est à Paris. Non, vous devez à un moment donné. Moi, peut-être à choquer, mais je le dis très franchement. Ce que j'ai vu apparaître pendant cette crise, c'est que on avait une dimension collective pendant la première partie de ce confinement et de cette crise
qui
a été formidable et de tous les côtés. C'est-à-dire que vraiment tout le monde a mis de l'énergie, du collectif et autres. Et puis, plus on est avancé, et c'est normal, plus on a avancé vers les deuxième, troisième X confinement, et plus on est arrivé vers beaucoup d'individualisme. Et à un moment donné, le fait de faire un choix de vie, moi, je le respecte, je le comprends totalement, mais l'entreprise, c'est un collectif de 138 000 personnes dans le monde. Moi, je ne peux pas gérer individuellement chaque cas. Donc, j'ai besoin, et puis il y a un côté fairness, équité. Et l'équité, franchement, aujourd'hui, je le vois chez mes collaborateurs, c'est ce qu'ils attendent. À la limite, ils sont prêts à beaucoup de choses, mais pas à entendre qu'on a fait peu sous le manteau pour un tel, parce qu'on l'aime bien ou parce que son manager l'aime bien, et qu'à droite, la même personne qui demande quelque chose qui est équivalente ne va pas l'avoir.
Donc, en tant que RH, chacun assume ses choix, mais c'est important pour vous que chacun pense qu'il a été traité exactement de la même
manière.
C'est quoi l'ambiance à la Défense, là?
Elle est plutôt bonne. En fait, elle est moins bonne depuis qu'il fait pas beau.
Oui.
Parce que je dois dire que, en fait, ce qui a été formidable, moi, ça m'a fait vraiment super plaisir, c'est qu'on a beaucoup de restaurants qui ont rouvert autour des tours. Et les terrasses étaient pleines. En fait, le jour où on a autorisé les gens à revenir, mais il y avait un monde de dingue.
C'est la fête à la Défense.
Et franchement, c'était super. Franchement, parce qu'il y a un moment, il faut aussi que les gens se retrouvent, boivent un café ensemble, soient contents de déjeuner. Non, il y a franchement une bonne ambiance. Et je n'ai même pas de remontée sur les transports parce qu'on est très souple sur les heures d'arrivée, on est très souple sur les heures de départ. On fait en sorte que les gens ne se retrouvent pas entassés dans les transports. Non, c'est franchement, je vais le dire, ça fait vraiment plaisir, de voir du monde.
Le gros sujet, ce sont les jeunes, l'emploi des jeunes, la manière dont ils vont s'insérer aujourd'hui dans le monde du travail qu'ils connaissent mal. Ils ont eu des stages ratés, des alternances qui n'ont pas bien fonctionné. Il faut être parti évidemment du dispositif Un jeune, une solution. C'est un plan de 9 milliards d'euros poussé par le gouvernement, de l'aide à l'embauche, de la formation, de l'accompagnement. Il y a 2 jeunes sur 3 qui ont le sentiment de ne pas être bien informés sur les dispositifs, qui à mon avis ne savent absolument pas ce que c'est. On a aussi des jeunes totalement déprimé. Oui. Il y a eu un sondage qui est sorti la semaine dernière qui montrait des jeunes qui ne pensaient pas à l'avenir, qui ne voient pas qu'ils auront un avenir plus beau que ceux de leurs parents. Dans quel état vous voulez trouver ceux qui rentrent à la Société Générale?
Alors d'abord, moi, en tant que DRH, mais maman aussi, moi je suis très très inquiète en fait sur les jeunes, parce que je pense qu'en fait, globalement, les sondages ne sont pas si mauvais que ça quand vous les regardez. Mais je pense que c'est que le début, en fait. Hein. Vous allez avoir vraiment des impacts plus tard. Nous, on a fait un sondage, en fait, sur nos jeunes. Comme j'étais très inquiète, en fait, j'ai voulu savoir comment allaient mes jeunes stagiaires, alternants. Et le sondage a été plutôt très bon. On a eu des zones Et en particulier, par exemple, nos jeunes VIE, vous savez, les jeunes qui partent à l'étranger. Alors, ça n'allait pas du tout. En fait, ils se sont retrouvés dans un tout petit, un espèce de petit appart, isolé, sans les parents, sans la famille, sans les amis. Catastrophe. On en a rapatrié pas mal, qui étaient, par exemple, en Angleterre, où on a dû vraiment, là, on a dit, non, on vous rapatrie, on vous fait continuer votre VIE d'une autre façon, on s'est mis en relation avec Business France. Ça s'est bien passé. Par contre, tous ceux qui étaient en France et dans d'autres pays en fait en stage, eh ben ça s'est super bien passé et on a plutôt eu des retours très positifs parce qu'ils ont été très encadrés en fait.
Donc ça c'est ceux qui sont déjà dans l'entreprise.
Bon, après il y a ceux qui arrivent. Alors nous on a toujours dit que quand on arrive à la Société Générale en stage ou en alternance ou en jeune recruté, on impose qu'ils viennent sur site et qu'ils rencontrent leur management. Donc même au moment où on n'avait pas de retour sur site, on va dire obligatoire,
il fallait quand même se voir.
Donc on a géré ça. Après, le vrai sujet qu'on a, c'est l'emploi en tant que tel, c'est-à-dire la capacité aussi à recruter les jeunes. Comme toutes les entreprises, tout le monde est très frileux. On a été aussi très frileux. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé et on a augmenté le nombre d'alternances. Parce que là, aujourd'hui, le plus gros problème que je vois chez les jeunes, c'est qu'ils ne trouvent pas de stage et ils ne trouvent pas d'alternance. Donc beaucoup de boîtes du CAC 40 comme nous, on a augmenté nos plafonds pour pouvoir effectivement les recevoir. On a fait aussi beaucoup de job dating. On a fait en sorte...
Alors ça marche encore. Les job dating en région...
On l'a fait dans le cadre d'un jeune, une solution. On a fait sur la banque de détail où on l'a fait avec nous en tant qu'employeur. En fait, on est allé chercher nos clients, nos gros clients PME, par exemple, qui cherchaient des jeunes. Et en fait, on a mis en contact ces jeunes, donc qui s'installaient, qui se
donc événement emploi.
Moi, c'était en digital. C'était en digital. Alors, ils s'inscrivaient sur une plateforme et ensuite on faisait des rendez-vous. Et ça a vachement bien marché. D'abord parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait de trouver un job, il y a aussi le fait d'être considéré à un moment donné et juste qu'on vous réponde. Moi je vois, j'ai une gamine de 26 ans, et ce qu'elle me dit, le plus dur pour elle...
C'est la non-réponse.
On ne
progresse pas beaucoup là-dessus.
Non, franchement.
Pourtant, j'en vois, moi, des startups qui créent des solutions pour répondre, qui se penchent sur le sujet. Mais...
Franchement, je pense que les gens, et je peux comprendre, les gens sont débordés, ça déborde d'emails. Moi, je vois, je passe un temps de dingue à répondre à chaque jeune. Je fais ça la nuit, je fais ça le soir, je fais ça. Bon, voilà. Mais c'est dur, il faut le dire, c'est assez dur. Et après, le dernier point, qui pour moi est super important pour aider ces jeunes, c'est le mentorat. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la tribune qui a été signée par plusieurs patrons ce week-end.
Vous allez tous vous mettre au mentorat.
Nous, ça fait des années qu'on le fait. Et je vais vous dire, pour être mentor, moi-même, je parraine en fait.
Ça vous apporte plein de trucs.
Moi, je le fais depuis... ça doit faire 20 ans que je le fais. J'ai même deux gamines que j'ai vues toutes jeunes, et maintenant elles sont mamans avec leurs gamins. Il y en a une qui travaille à la Société Générale, il y en a une autre qui est dans une start-up.
Adopter un jeune.
C'est limite ça, quand même. Parce que quand vous le faites sur le long terme, vous avez un lien qui se crée qui est vraiment très très fort. Après, vous pouvez le faire pour 3 heures. Oui, c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est faites-le. Même si ça vous prend 2 heures, c'est important.
Merci beaucoup Caroline Goyomin d'être venue nous voir, DRH et DIRCOM de la Société Générale. Bonnes vacances, les vacances ça va faire du bien.
Ça va être super.
À tout le monde. On continue, on va parler de management rotatif.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on est avec Vincent Balouet, fondateur de maîtrisedescrises.com. Bonjour.
Bonjour,
on va parler management rotatif ensemble, l'art de manager des équipes qui bougent en permanence. Ça ressemble à un casse-tête.
C'est impossible. C'est-à-dire que les collaborateurs dans un monde post-crise, comme on l'a, enfin post-Covid, comme on l'a maintenant, sont des gens qui veulent concilier ce qui ressemble à l'inconciliable pour l'employeur, c'est-à-dire un temps choisi à la maison en télétravail pour bosser les dossiers, réfléchir au calme, un temps choisi plus ou moins à la maison le mercredi parce qu'il y a les enfants, du temps en entreprise parce que les collègues c'est important, mais chacun a son rythme, chacun a sa vitesse, chacun quand il veut. Et le travail, c'est pas un self-service.
C'est ce que vient de nous dire Caroline Guillaumin, la DRH de Société Générale, qui disait je ne peux pas gérer 133 000 cas par cas, c'est pas possible.
Voilà, donc dans les petites boîtes on peut faire un peu de cas par cas avec l'humanité et bon sens, on va dire. Mais évidemment, quand on a des effectifs de cette échelle-là, il faut bien se donner des principes. Et les principes, c'est que le travail, c'est pas un seul service. C'est l'adhésion à un projet d'entreprise. Donc il faut remettre le projet au centre. Et là, évidemment, ça sera peut-être un peu plus simple, mais il y a beaucoup à construire encore.
Mais c'est-à-dire qu'il faut être quand même très clair sur le projet d'entreprise, sur le projet de chaque équipe.
Ah oui.
Réexpliquer.
C'est plus que ça.
En septembre.
C'est pas que expliquer, c'est concevoir. savoir aussi. Donc très vraisemblablement, les entreprises auraient intérêt, si on a une rentrée un peu tendue, à concevoir des projets autour de ce principe d'adhésion au projet, avec de l'événementiel, qui n'est pas forcément du présentiel, l'événementiel, hein, mais on lance un projet d'un nouveau produit, d'une nouvelle marque, d'un nouveau design, d'un nouveau truc, bon, très bien, et on fait de l'événement autour de ça pour que les collaborateurs adhèrent au projet. Et l'organisation du travail suit. Alors qu'avant, c'est, on pensait organisation du travail, les gens sont là, puis on essaie de construire des projets là-dedans. Donc là, c'est un retournement de situation. On a en gros l'été pour préparer, et rendez-vous en septembre.
Donc il faut une nouveauté, quelque chose à lancer, quelque chose pour adhérer. On n'a pas tous dans les entreprises de nouveau.
Non, mais on a le droit de créer aussi. Ouais. L'entreprise, c'est un univers où on crée de la valeur, on crée des projets, on crée de l'envie. Parce que le risque de l'immobilisme, de dire le télétravail, j'ai pas envie, j'ai rien à proposer à mes collaborateurs, c'est que les meilleurs s'en aillent. Et après, il y a un sujet recrutement derrière. Et on sait déjà que le recrutement, c'est un peu tendu. Et donc, de donner envie à l'ensemble des compétences dans l'entreprise du haut en bas, hein, d'adhérer à ce projet-là, il va falloir faire preuve d'imagination. Donc, ils n'ont pas le projet, mais il va falloir le créer quand même.
Donc, une fois qu'on a le projet, on se dit, voilà, je le lance à mes équipes. Le management rotatif, comment il s'organise? Je fais une petite liste de tous les problèmes de chacun.
Non, mais il faut faire preuve de bon sens. Je crois que la direction générale d'une entreprise aura sans doute intérêt à imprimer des principes d'adhésion au projet. Par exemple, des dates de lancement, en disant on est tous derrière. Alors après, le rôle de chacun, on distribue, etc. Et puis le manager fait la fin du travail, sans doute, avec le cas de monsieur ou madame Intel qui a des problèmes de santé, des problèmes de situation de handicap. Il y a plein de problèmes dans l'entreprise. Il faut faire preuve d'humanité.
Mais en même temps, il faut un cadre. C'est ça que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut des dates précises. Il faut vraiment un truc vraiment très cadré pour après faire ce qu'on veut dedans.
Ce qu'on veut, peut-être pas, mais je pense que les directions générales, vu ce qu'on a comme crise en ce moment, auraient intérêt à réfléchir à une politique de remise du projet au centre de l'entreprise. Il faut y réfléchir maintenant et mettre ça en place pour le début septembre, c'est-à-dire en gros rentrée scolaire faite. Parce que là, on a rendez-vous avec le Covid, quid de la vaccination, quid du variant Delta, et on va bien voir ce qui va se passer. Et pourtant, il faut bien que l'activité continue. Donc c'est là que ça va se jouer.
Et vous les trouvez comment, là, les managers, les chefs d'entreprise, conscients de ça?
Alors, les managers d'entreprise, ils ont envie de partir en vacances. Donc ça, c'est vraiment
ça, c'est un peu le cas de tout le monde.
C'est vraiment le sujet. Et il manque complètement de visibilité avec ce qu'on nous annonce sur les trajectoires vaccins dans l'âge au travail, hein, c'est-à-dire la tranche 18-60 ans, et pas la tranche 60-80 qui est plus largement vaccinée. Mais la tranche 18-60 ans est très minoritairement full vaccinée. On doit être à 30 à peine et quelques, même pas. Donc, on est très, très loin de l'immunité collective dans le cluster entreprise. Très très loin, et les gens auront le bol, donc ils partent en vacances. Donc là, tout de suite, on part en vacances tous dans le brouillard, et bienvenue à la sortie du tunnel, 15 août à peu près, pour dire, au fait, Covid, on en est où? Vaccination, on en est où? Que va nous dire Santé publique France et le ministre de la Santé?
Mais alors, qui sont ceux qui s'en sortiront bien mi-août? C'est ceux qui ont déjà fait un plan de continuité, qui ont posé toutes les possibles scénarios?
Oui, les possibles scénarios. Continuité, c'est pas ça. Continuité, c'est quand un truc s'arrête et on met un plan B derrière. Non, mais il faut anticiper les scénarios. Donc, il est possible qu'on ait une rentrée heureuse.
C'est pas impossible.
Voilà, quand même, on a le droit d'être un peu optimiste. Une rentrée heureuse, c'est-à-dire un variant qui finalement nous a pas flanqué une pagaille noire, des vaccins qui finalement on a pu aller sur les plages, etc. Ça s'est pas si mal passé que ça. Et au bout du bout, la santé nous dit pas besoin de confiner tout le monde et on peut redémarrer en douceur. Et puis le scénario un peu plus chocolat, évidemment, c'est que ça se passe mal. Il va falloir resserrer, repartir en télétravail, sans doute couvre-feu et remettre les projets au centre en même temps. Donc là, ça s'anticipe. On fait pas ça du jour au lendemain. Hein. Et cette anticipation, c'est maintenant.
Et là, on a gagné quand même dans cette capacité à gérer de la crise.
C'est incontestable que le monde d'après, c'est-à-dire maintenant, en termes de gestion de crise pour les directions générales.
Est-ce que vous voyez émerger et sortir vraiment des gestionnaires de crise, là, des gens qui se sont révélés?
Ah oui, plus que des gens, des organisations, des membres de COMEX, qui sont, parce qu'ils ont bien piloté le truc au début, et donc ils ont une réputation, une confiance de leur management dans l'entreprise pour dire celui-là, il a des idées, il voit les coups venir avant, et donc on lui fait confiance, vas-y, aide-nous pour la suite. Schématiquement, c'est ça. Donc là, bien sûr qu'on a appris, l'outil télétravail est un outil absolument incroyable maintenant, qui est en place, qui va sans doute aider les entreprises à résister à des mouvements de grève type panne de métro, voilà, parce que avant, quand le métro s'arrête, on prenait les rollers. Oui, maintenant, quand le métro s'arrête, on prend du télétravail, ça va être beaucoup plus simple. Donc, il y a plein de choses.
La dernière grève de la SNCF et de la RATP avait fait beaucoup de mal à la productivité.
Oui, c'était juste avant, on est d'accord. C'était juste avant le Covid. Mais la prochaine grève RATP, puisqu'on parle de ça, post-Covid, elle n'aura pas du tout la même chance de succès que le monde d'avant. Donc, ce monde-là va aussi changer. au passage.
Merci beaucoup Vincent Balouet d'être venu nous voir, fondateur de maîtrisedescrises.com. Il n'est donc pas impossible qu'on ait une rentrée heureuse.
Souhaitons-le.
On va se quitter là-dessus. On va parler des mots. On n'a pas parlé d'agilité ensemble, mais il ne faut plus l'utiliser. On va utiliser d'autres mots.
Voilà.
Ne bougez pas.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va parler vocabulaire, vocabulaire business, vocabulaire du monde du travail avec ces mots qui se répètent. On est avec Anne Rosnoblet. Bonjour, vous êtes traductrice spécialiste de la langue française. Vous avez un blog qui s'appelle françaissansfaute.wordpress.com. Il y a des mots dans le vocabulaire business que vous ne voulez plus entendre, que vous n'en pouvez plus entendre. Et j'imagine que le premier, à mon avis, c'est agile.
Oui, alors agile fait partie d'une catégorie de mots que j'appelle les schtroumpfs en fait. Ce sont des mots qu'on utilise tellement souvent et finalement pour ne rien dire, au bout d'un moment ils reviennent et l'emblématique schtroumpf c'est la plateforme. Vous entendez des plateformes partout, une société qui travaille sur internet devient une plateforme, mais la plateforme peut également travailler pour donner des rendez-vous sur des plateformes grâce auxquelles vous aurez une plateforme qui vous permettra de vous inscrire. Ça c'est ce que j'appelle les schtroumpfs. Ce sont des mots interchangeables qui ne servent à rien et qui pourraient être habilement remplacés par autre chose. Par exemple agilité que vous venez de citer, ça pourrait être la flexibilité, l'adaptabilité, la vivacité aussi, la capacité de rebondir, toutes sortes de choses comme ça. La plateforme, évidemment, c'est le site internet, c'est l'entreprise, tout simplement. Ça peut être aussi un service, ça peut être juste un service. Parmi ces mots de schtroumpf, j'ai aussi défi. Défi ouais. Qui n'est pas mal parce que ça revient à toutes les sauces et finalement un défi c'est parfois même pas un problème, c'est juste une situation à laquelle on se trouve confronté, mais pourquoi répéter défi sans cesse? Donc ça c'est une première catégorie de mots qui pêchent parce qu'ils ne sont, c'est toujours les mêmes et donc le langage s'appauvrit à cause de ça.
Et plus on les répète et moins ils ont de sens?
Exactement, exactement, c'est pour ça que j'appelle ça les schtroumpfs. Quand vous dites je schtroumpfe le schtroumpf de mon schtroumpf, mais c'est exactement pareil que d'utiliser sans cesse, sans
fin. Soyons
agiles
voilà, sur la
exactement,
plateforme.
Ça ne veut plus rien dire du tout.
Du coup, donc vous nous avez donné des pistes de mots qu'on pourrait utiliser, mais en même temps, ces mots, ils permettent aussi souvent aux services marketing et même aux salariés eux-mêmes de se rassurer. On sait un défi, on sait ce que c'est, quoi.
Oui, mais c'est dommage parce que au bout d'un moment, ça n'incarne plus rien. Et parfois, le mot à la mode, et là je pense aux anglicismes, ne veut rien dire, même dans l'esprit des salariés, parce qu'ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Et puis c'est aussi un moyen d'être paresseux intellectuellement, de ne pas chercher à aller plus loin. Et pas chercher à aller plus loin, c'est pas très bon quand on est dans une entreprise, il faut toujours chercher à aller plus loin.
Vous avez l'impression que l'anglais du coup nous appauvrit en tant que français parce qu'on l'utilise en permanence, parfois pour simplifier?
Ah, c'est très net. Alors qu'il s'agisse des vrais anglicismes, par exemple brief, debrief ou forward ou des choses comme ça. Ou alors, ça c'est plus grave, c'est une nouvelle catégorie que je vois émerger, ce sont les calques de l'anglais. Non, quand j'étais petite, on appelait ça les faux amis. Mais en fait, maintenant, ce sont des calques de l'anglais qui sont employés comme s'ils étaient des mots français, mais ils n'en sont pas. Alors j'en ai plusieurs. Par exemple, questionner. C'est on ne remet plus rien en question, on questionne. Par exemple, cette étude questionne la place de l'assurance dans le monde. Bah non, l'étude elle ne questionne rien du tout. Questionner, c'est poser une question à quelqu'un. Peut-être réfléchir sur la place de l'assurance dans le monde, se penche sur la place de l'assurance dans le monde. Voilà, c'est une réflexion sur la place de l'assurance dans le monde. Questionner. On a l'éducation qui n'est pas la même chose que l'instruction. Même sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Je vois une section éducation. Bah non, quand on a plus de 18 ans, qu'on fait de la formation, qu'on fait de l'apprentissage, on n'est pas en une situation d'éducation, on a plus 5 ans. C'est la formation.
Là, c'est l'anglais qui fait mal, quoi.
Mais c'est ça, ouais. Ce sont des mots qui viennent de l'anglais et qui sont directement calqués là-dessus. Et on a académique aussi. Académique qui, normalement, veut dire conforme au canon. Et là, c'est plutôt universitaire. Tout ce qui est universitaire est devenu académique, ce qui n'est pas un bon point, puisque l'académie a plutôt une connotation un peu rigide, qui n'incite pas à beaucoup innover. J'ai aussi sourcé.
Alors là, sourcer, ah oui, on source beaucoup.
On source, mais en fait, to source, c'est acheter, s'approvisionner, acquérir quelque chose, trouver les matières premières. Pourquoi sourcer? Parce que ça ressemble au français. Un archi connu, évidemment, qui existe depuis très longtemps, c'est supporter. Supporter, qui est un vrai problème, parce que to support, c'est positif, c'est être derrière quelqu'un, c'est l'encourager, c'est le soutenir. Et supporter, en français, le vrai sens, c'est vraiment quelqu'un qu'on n'aime pas, et si on le supporte, bah, c'est vraiment contre mauvaise fortune, bon cœur. Donc là, on est carrément dans un sens.
Dans un contresens.
Exactement, c'est un contresens. C'est pour ça que ce sont des faux amis, c'est ce qu'on appelle des faux amis. Donc j'en ai plein d'autres. Un autre auquel je pense qui est très à la mode, c'est adresser. On adresse un marché. Alors c'est to address, mais en fait, fait, non, on cible un marché, on vise un marché, on veut répondre aux besoins de la clientèle. Et c'est dommage parce qu'il existe des tas de mots en français pour le dire. Alors, pourquoi calquer l'anglais? Parce qu'en plus, ils ne sont pas forcément plus courts que les mots français.
Est-ce que vous avez l'impression que celui dans le monde du travail qui arrive notamment à se défaire de ces mots schtroumpf, comme vous dites, et qui arrive à faire avoir un vocabulaire riche, c'est un vrai atout aujourd'hui pour se différencier, ou en fait tout le monde s'en fiche?
Ah, moi, je suis convaincue que c'est un vrai atout pour se différencier parce que j'ai la chance et le plaisir de constater que, bon, moi je suis très regardante sur mes traductions, il faut que ce soit vraiment impeccable et je les relis à voix haute pour qu'elles soient fluides et qu'elles coulent. Et je vois que mes clients sont contents, ils me rappellent, et moi je travaille pour la finance, l'assurance, l'économie, les organisations internationales. Donc je me dis, parmi les dirigeants, les responsables marketing, les responsables communication de ces entreprises et de ces organisations, oui, le français est important, ça compte pour eux, ça fait la différence. Et je pense que quelqu'un qui s'exprime autrement, qui s'exprime clairement, avec des mots qui veulent dire quelque chose, fera une vraie différence. Et bien sûr, j'en suis certaine.
Soyez riche dans votre vocabulaire. Et je vous ai appris un mot en préparant cette émission, oui. Cranter. Il faut que vous mettiez absolument là-dessus. On crante aujourd'hui. Tout le monde crante et tout le monde fait le geste des petits escaliers. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais apparemment, c'est très important.
Dans et bien, le monde écoutez, c'est un mot que vous m'apprenez.
Alors, je vais vous pencher dessus. Merci beaucoup, Anne Rosnoblet, d'être venue nous voir, traductrice spécialiste de la langue française. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.